Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis les studios du Boulevard. Nous sommes en ce début mars, à une saison qui, pour les herboristes, signifie beaucoup de choses, notamment le réveil de leurs activités de cueillette, qui vont connaître un certain paroxysme, disons, avec les pleines lunes des mois de mars, avril, mai et juin, qui est la grande saison de cueillette des plantes médicinales. Alors vous savez, bon, mes antécédents familiaux et mes compétences en ce domaine, mais la réputation qui m'est faite. Et j'avais donc aujourd'hui trouvé cette idée à propos du mois de mars, de l'entrée en carême, du beau temps chaud et sec de mars. Vous connaissez le fameux proverbe. Mars pulberus, abrial plexus, mai rusadus, tutti stress, fan lubun pazes urus. Mars, chaud, sec, poudreux, poussiéreux, ensoleillé, avril pluvieux, mai riche en rosée, tous les trois font le bon paysan heureux. C'est là la saison de cueillette de beaucoup de plantes médicinales, à l'état de feuilles ou de fleurs, de plantes fleuries. Et j'ai par mes cueillettes dans la vallée de la Négue-Vieille, sur l'Écosse au sud de Montcuq et ailleurs, j'ai pu me rendre compte que souvent les plantes sont l'expression des caractéristiques d'un milieu. Ce n'est pas une idée bien nouvelle. Milieu composé du sol, du climat et de toutes les données de la géographie physique. L'orientation des versants, la direction des vallées d'aval en amont. C'est évident qu'une vallée dont le cours d'eau descendra du nord vers le sud n'aura pas les mêmes caractéristiques de microclimat que celle dont le cours d'eau descend de l'est vers l'ouest. Prenez le cas très différent de la vallée de la Négue-Vieille qui descend de l'est vers l'ouest à Montcuq et la Barguelonne qui, elle, descend plutôt du nord-est vers le sud-ouest. De même que la Séoune, par exemple. Selon que l'on est en versant exposé au sud ou au nord, on n'aura pas les mêmes conditions. Selon que l'on est sur l'Écosse ou dans les fonds de vallée. Et on aura donc une richesse de milieux naturels extrêmement contrastés tout en étant très proches qui se traduit par une flore qui est parfois médicinale, quelquefois toxique, quelquefois à la fois médicinale et alimentaire, quand ce n'est pas qu'elle est aussi toxique et alimentaire, ce qui est une des richesses de la culture des gens du Quercy Blanc en ce domaine-là. Alors, parmi les plantes qui m'ont paru caractériser les milieux de nos régions, il y a évidemment celles qui sont en fleur en ce moment, le marube pourpre, la véronique commune, qui n'ont pas d'utilisation. Une plante qui décore très bien les talus en ce moment et les couvre de feuilles vertes vernissées, rondes. La fleur elle-même est à 5 pétales, jaune d'or, c'est la ficaire. Ficaire qui, par son nom d'herbe del fic, signifie qu'elle est la plante qui guérit quoi ? Les hémorroïdes. Du reste, les composants naturels du rhizome de ficaire se retrouvent dans certaines spécialités pharmaceutiques de pommades anti-hémorroïdaires. Une autre plante à laquelle je pensais, c'est la garance pèlerine, qu'on appelle également en occitan rebulo, rubia peregrina en latin. Alors, rebulo, à ne pas confondre, je l'avais noté, avec le très toxique redoul, lou redoul, en latin coriaria myrtifolia, qui est une méditerranéenne commune en nos contrées et qui est mortelle. La garance pèlerine, le redoul, la canne de Provence, Arundo Donax, la canne à sucre des Pays d'Oc font partie de ces plantes méditerranéennes communes dans nos régions et qui montrent bien les affinités méridionales de notre climat, où elles coexistent avec des plantes de l'Europe tempérée océanique, atlantique et même continentale. Alors parmi ces plantes communes dans toute l'Europe tempérée, atlantique ou continentale et même septentrionale, il y en a trois qui me paraissent pouvoir marquer l'imaginaire des carcinoles, des carcinois, trois et même beaucoup d'autres. Je vous en parlais à propos de la Barguelonne, de l'étymologie du nom de la Barguelonne, qui est en bonne linguistique comparée indo-européenne, la rivière des frênes. J'avais été très étonné une fois, j'en parlais avec des agriculteurs. On parlait de plantes, et ils m'avaient posé des questions, et je leur réponds, mon Dieu, vous pourriez utiliser le frêne, le sol. Ils me regardaient avec des yeux ronds, je dis, mais comment, mais ils ne savaient pas, eux, agriculteurs, et je connais leur terrain, je connais leur terre, je connais les plantes qui y poussent, ils ne savaient pas ce qu'était le frêne, le sureau, le sol ou le chêne. Je leur ai dit en occitan, l'oufraïse, l'oussause, l'oussoï, l'oucasse, ça ne leur disait rien. Je me suis aperçu de, et c'est navrant, de l'immensité de l'ignorance de beaucoup de gens du pays en matière de plantes médicinales et autres, toxiques également. Il m'est arrivé, je tenais à l'époque, je travaillais avec mes parents dans le cadre de l'herboristerie, de voir arriver des touristes qui portaient à la main un bouquet d'origan et ils n'avaient trouvé personne capable de leur identifier l'origan. Une autre fois, c'est arrivé pour de l'arôme tacheté qui est toxique. Une autre fois, pour de l'amarante sauvage. Je n'en revenais pas. Ce qui m'a paru intéressant à propos du frêne, du sorbier, du sureau, c'est qu'ils sont les révélateurs de caractéristiques du sol où ils poussent. Alors le frêne, ça va vous étonner et vous intéresser, par sa composition chimique, révèle la présence dans le sol d'or et de cuivre, le sorbier, celle de fer, le sureau noir, le sambuc, l'oussoï, la présence d'eau à faible profondeur. Vous trouverez des sureaux isolés en plein Corse et ils sont toujours en haut d'une combe dans laquelle naît un petit ruisseau. Et en fait, les sureaux marquent le point supérieur d'émergence de ce cours d'eau. Même sur le Corse. Vous avez le cas pour le vallon de Couvignac, dont la haute combe est marquée en tête de haute combe par un bouquet de sureaux qui marque bien l'endroit où ressurgit le petit filet d'eau intermittent qui parcourt ce vallon pendant les saisons pluviales hivernales. Alors le Quercy est donc marqué par ces milieux naturels très riches et très proches et en même temps très contrastés. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, là je vais un peu dans un désordre complet. Le Redoul dont je vous parlais me paraît intéressant. Pourquoi ? Parce que, d'abord, cette Coriaria multifolia est très répandue dans nos régions. Elle perd ses feuilles l'hiver. Au mois d'avril, fait pousser des bouquets de fleurs qui apparaissent à l'aisselle des anciennes feuilles, bouquets de fleurs ressemblant à celles de groseillers, suivis de baies noires qui ressemblent trait pour trait à des mûres de ronce. Or, ces baies noires, qui sont mûres en mai-juin, sont des toxiques mortels. Et je suis heureux de voir qu'il n'y ait jamais eu d'accident dans la région. Mais le redoul est révélateur de quoi ? Des capacités d'observation de la nature qui sont celles de nos quercinois. Ça va nous introduire aux 10 locaux sur les plantes. C'est que le redoul est une plante qui est un marqueur, si vous voulez, de la culture locale en la matière. Vous savez qu'une vieille idée veut que nos ancêtres du paléolithique, de l'antiquité, aient connu les vertus des plantes en observant les comportements des animaux envers ces plantes. Il se trouve que dans nos régions, lorsque des vaches ou des moutons ont mangé du redoul, on dit qu'elles sont redoulados. Laibacos et las abuelos sont redoulados. Elles sont empoisonnées par le redoul. Elles ne tiennent pas sur leurs pattes. Elles tremblent, elles tombent. Au bout de quelques heures, les symptômes disparaissent et l'animal reprend son état normal. Or, c'est ce qui a permis de faire comprendre aux gens du pays qu'il ne fallait pas consommer ces baies mûres noires de redoul. Inversement, et on s'en aperçoit en se promenant sur les côtes autour de Montcuq, j'en ai eu confirmation dans la vallée de la Rose, la Rauso, à Francoulès, Saint-Pierre-de-la-Rose. Lors d'une promenade, un monsieur de cette vallée, agriculteur, chasseur, élu local, m'avait raconté qu'étant à la guette lors d'une battue au sanglier, il avait vu ceci déterrer les rhizomes d'arômes tachetés, qu'on appelle ici panne des serpes, peine de serpent, ou ragis des serpes, raisin de serpent. Il avait donc vu les sangliers déterrer ces rhizomes et les consommer. Alors il s'est dit, mon Dieu, si les sangliers le mangent, je peux en faire autant. Il avait mis la dent là-dedans et de suite, il avait craché tellement c'est amer. Or, le rhizome d'arôme tacheté, comme toute la plante, est un toxique violent. Ce qui nous prouve bien que la consommation d'une plante par un animal tel que le sanglier ne signifie pas que celle-ci soit inoffensive. Alors, ça pose le problème de ces plantes toxiques qui sont aussi des plantes médicinales, car l'arôme tacheté en fait partie. Je vais donc, à présent, vous parler d'un sujet plus centré sur notre propos d'aujourd'hui, les 10 locaux sur les plantes, leurs vertus, leurs caractères, à partir de témoignages recueillis directement auprès de gens du pays. Nous avons droit, je pense, à une petite interruption musicale de quelques minutes.
papagaio. Ela canta, ela fala, tem na feira de mandaio. Tropical da Amazônia, cantadora de balaio.
Para, para, papagaio, para, para, papagaio. Para, para, papagaio, para, para, papagaio.
Alors, les témoignages que j'ai pu recueillir directement auprès de gens du pays en matière de plantes médicinales, leurs vertus, leurs utilisations, leur caractère toxique ou non, pourrait occuper plusieurs émissions. Il y a un cas intéressant. Vous avez une plante bien connue dans le pays, c'est le buis, l'ubuis en occitan. On sait par la vie de Saint Didier de Cahors qu'il couvrait les pentes de Cahors déjà au 7e siècle de notre ère. On sait qu'il est beaucoup plus ancien, que c'est une plante qui a échappé à la dernière glaciation, qui s'était réfugiée au paléolithique final, c'est-à-dire vers 12 000 avant notre ère, sur les corniches de rebords de Cos et les falaises exposées vers le sud. Alors le buis, assez curieusement, dans nos régions, le buis passe pour toxique. Je me faisais, pour mes usages personnels, un mélange de plantes macérées dans l'huile et que d'abord j'écrabouillais dans une espèce de mortier avec un gros pilon composé du reste d'un tronc de buis, une branche de buis. Et parmi ces plantes, il y avait du buis avec ses baies. J'avais fait exprès de faire ça dehors uniquement pour voir la réaction qui allait être celle des pétanqueurs. Un de mes voisins passe, il me voit faire, mais malheureux, mais tu n'y penses pas. Le buis, mais c'est un poison. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est la seule partie toxique dans le buis, c'est la baie, les fruits, si vous voulez. Alors que les feuilles et les écorces sont un remède souverain contre différents problèmes, disons, infectieux et fébriles, je n'en dirai pas plus. Sans danger, il ne faut pas quand même en abuser, mais enfin, l'écorce et les feuilles de buis ne sont pas dangereux. Et dans le pays, j'ai pu remarquer que tout ce qui est plante à feuillage persistant vert sombre passe pour dangereux. Alors, j'ai fait quelques références à la culture gauloise complètement oubliée, le vert et le noir, le sombre, c'est pas impossible. Mais j'ai retrouvé cette même réputation attribuée au buis, à Carcassonne, où une personne dans le jardin donné sur le canal au bord de l'Aude me disait « Oh, vous savez, monsieur, il ne faut surtout pas utiliser les baies de laurier. C'est un poison. » Alors là, j'ai été très étonné parce que tous les herboristes à l'ancienne et tous les gens qui sont d'une famille d'herboristes savent très bien que le docteur Cazin, fameux médecin de campagne dans le nord de la France au XIXe siècle, dans ses œuvres avait publié des recettes composées, entre autres choses, d'écorce, de feuilles, de buis, de baies de laurier et de baies de genièvre et autres. C'est la base du fameux baume de Harlem, mais qui existe également à l'état de tisane qu'on peut avaler. Et le docteur Cazin, dans ses œuvres, avait cité le cas de certaines de ses malades atteintes de ce qu'on appelle disons les problèmes arthritiques avec maladie de peau. Et il avait soigné ses malades, ses paysans. Il leur faisait d'abord se passer aux endroits douloureux ou aux endroits où ils avaient des maladies de peau, sa fameuse pommade à base de ce que je viens de vous dire, mais également il leur conseillait en tisane. Et il n'y avait jamais eu de problème. Bon. Alors cette réputation des plantes à coloration vert sombre, qu'il en fait des plantes négatives, toxiques, on la retrouve dans toutes nos régions. Elle n'atteint toutefois pas, quoique on a des cas qui vont en sens contraire, le sureau noir, le fameux sambuc, le soy. J'ai coutume de dire aux gens qui m'en parlent, qui me demandent est-ce qu'on peut utiliser le sureau, je leur dis toujours, écoutez, dans le sureau arborescent, tout est bon sauf ce qui est vert. Tout ce qui est noir ou tout ce qui est blanc est bon. Alors les baies, vous pouvez les utiliser pour faire des gelées, des confitures, des liqueurs, etc. C'est laxatif, c'est diurétique, mais ça n'a pas de toxicité. Alors la fleur de sureau, évidemment, c'est le grand remède, c'est un des grands guéritous de l'Europe ancienne et même de nos régions. Dans nos régions, l'hiver, quand on ne va pas bien, quand on a pris froid, qu'on a de la fièvre, qu'on a des frissons, qu'on est enrhumé, les vieux paysans du Quercy se soignaient à la fleur de sureau. C'était un de leurs grands guéritous. Ce qui est intéressant, c'est que le sureau arborescent, qui, de nos jours, est authentiquement considéré comme médicinal et curatif, sauf, je vous dis, les parties vertes. Les feuilles et les écorces, il ne faut pas les utiliser, c'est vomitif, nauséeux, c'est toxique, ça contient des saponosides et des alcaloïdes dangereux, donc il ne faut pas les utiliser. On peut utiliser le bois blanc, bien récuré, bien nettoyé, c'est un très bon diurétique. Mais curieusement, alors que nous tenons le sureau arborescent pour médicinal, sans toxicité, sauf les feuilles et l'écorce, nos ancêtres, les médecins de la Gaule romaine et de la Gaule indépendante, considéraient le sureau en arbre comme toxique, et le sureau en herbe, le sureau yeble, éoulé en occitan, sambucus et boulus en latin, ils le considéraient comme médicinal. C'est-à-dire que, alors que pour nous, ce sureau yeble est toxique, il était médicinal pour les Gaulois, pour les druides gaulois. Il lui donnait du reste un nom, Odokos, qui veut dire littéralement le puant. Et c'est l'impression que l'on a lorsque l'on froisse des feuilles de sureau yèble, cette impression d'odeur très désagréable. C'est vrai également du sureau arborescent. Alors vous avez un autre cas de plante qui est un sujet de confusion parfois dans l'esprit des gens du pays. C'est le fameux soi-disant arnica, le faux arnica, commun sur les côtes du Quercy. Alors quand j'étais adolescent, j'avais une voisine qui me disait « Mon Dieu, va me donc me ramasser de l'arnica, tutera, tutera ». Alors je savais où il fallait aller, je connais des endroits où il y en a en abondance. Et j'étais très étonné parce que bon, l'arnica, elle s'en servait pour faire des liniments sur les bleus, les contusions et autres. Mais j'étais très étonné parce qu'en principe, l'arnica ne pousse qu'au-dessus de 800 mètres. Ici, nous sommes à moins de 200 et uniquement sur des terrains acides. Et ici, nous sommes en terrain calcaire. Alors, je m'étais un peu renseigné, j'avais fait quelques recherches d'identification botanique. Ma mère m'avait dit, écoute, bon, ils le croient, c'est comme ça, ils veulent que ce soit de l'arnica, ça n'est pas, mais bon, ils sont contents avec ça. Alors, c'était ça le plus beau, c'est qu'en fait, ce soi-disant arnica d'écorce du Quercy, ce n'est pas un arnica, c'est une onée, Inula montana, onée de montagne, qui est fréquente dans toutes les régions méridionales, méditerranéennes, sur sol calcaire et à basse altitude. On la rencontre du reste avec la piloselle, autre médicinale très peu connue des gens du pays, qui serait intéressante du reste pour certains problèmes. Alors, cette onée de montagne, c'est un sujet intéressant parce que Pierre Lyotagui en parle dans son ouvrage « Badass et Badasson » sur les usages populaires des plantes. Il retrouve la même chose en Provence. On s'est aperçu qu'en fait, c'est à l'occasion de pastoralisme transhumant. C'est-à-dire que dans le cadre de ce qu'on appelle la transhumance inverse, les troupeaux de moutons, de vaches et compagnie, qui passaient l'hiver sur les côtes du Quercy, les costières du Languedoc, les collines de Provence, montaient l'été dans les monts du Massif central ou des Alpes. Là, les bergers, à haute altitude et sur sols acides, trouvaient une plante, le véritable arnica, qui ressemble beaucoup, mais quand même pas point par point, à l'onée de montagne qui pousse dans nos régions. Et qu'ils voyaient, puisque les troupeaux transhumants quittaient nos régions au mois de mai pour revenir au mois d'octobre, ils avaient le temps de voir déjà le faux arnica, l'onée de montagne, en végétation. Et ils ont dû confondre les deux et diffuser auprès des populations le fait que cette onée de montagne avait les vertus de l'arnica. Alors les onées sont des médicinales sans danger, très bonnes à boire, ça a un très bon goût, très épicé. Ça a beaucoup de vertus, c'est sans danger. L'arnica, proprement dit lui-même, non, c'est un poison violent, c'est un toxique. Alors, dans toujours cette idée de la connaissance qu'ont les gens du pays d'après l'apparence des plantes ou le comportement des animaux, ce qu'on appelle la théorie des signes pour ce qui est de l'apparence des plantes, vous savez qu'on voulait que les plantes possède en elle-même des caractéristiques qui désignent la maladie qu'elle pouvait soigner. Alors, il y a un cas bien connu, et je le tiens d'une vieille plus que guérisseuse de Montcuq, dont j'ai souvent parlé, et elle me faisait remarquer à propos d'une toxique violente, l'arôme tacheté, je viens de vous en parler à propos de sa consommation par les sangliers. Alors, les sangliers peuvent manger l'arôme tacheté sans aucun inconvénient. En Charente, chez mon père, les feuilles d'arôme tacheté, on les fait passer dans de l'eau bouillante salée, on les donne à manger aux cochons qui en sont gourmands, comme les sangliers sont gourmands du rhizome. Alors, cette personne de Montcuq me faisait remarquer une chose. Elle me disait, monsieur Nardou, regardez, les feuilles de l'arôme tacheté, le pan de serpe, le rasis de serpe, le pain de serpent, le raisin de serpent, sont tachetés comme on croirait la radiographie d'un poumon. Et alors pour elle, à cause de ça, des applications de feuilles d'arôme tacheté étaient remarquables contre les maux de poitrine. Bon, là-dessus, je ne saurais dire, je ne donnerai pas mon opinion. Mais c'est intéressant parce que cette même personne, aux gens qui venaient la consulter, conseillait, en cas de pneumonie, pleurésie, bronchite et autres, des applications sur la poitrine de verveine officinale. Et les gens qui avaient eu recours à ce remède en étaient enchantés. Alors voilà ce que me disaient les gens qui avaient eu recours, et que me disait également cette plus que guérisseuse. On fait des compresses de verveine officinale qu'on applique très chaude. Il y a un truc que je n'ai jamais pu réussir à faire. Il faut les mélanger avec du blanc d'œuf et de l'huile. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on les fait cuire à la poêle légèrement, tout ça va se coaguler. Et des applications sur la poitrine, ou sur tout endroit où on a une douleur quelconque, on souffre d'une douleur quelconque. Ces applications, pour les gens qui l'ont essayé, se traduisent par l'exsudation à travers la peau de sérosités d'abord sanguinolentes, et lorsque ces sérosités de sanguinolentes sont devenues, comme on dit ici, claires comme de l'eau de roche, ça signifie que le malade est guéri. Alors, notre plus que guérisseuse avait remarqué, évidemment, comme beaucoup de gens, la même chose à propos de la feuille de pulmonaire, qui est une médicinale sans aucune toxicité, et dont les feuilles sont tachées de blanc. pulmonaires que l'on va ramasser maintenant au mois de mars, dont la floraison précède de peu celle du lierre terrestre, Glaucoma aederacea, aux propriétés différentes, mais qui ciblent les mêmes maux de voie respiratoire. Le lierre terrestre n'a rien à voir avec le lierre grimpant, hein, c'est pas du tout la même plante. C'est une labiée, le lierre grimpant est une araliacée, non très compliquée, donc c'est tout à fait différent. Alors pour en revenir à la théorie des signes, et à propos de l'arôme tacheté, je ne voudrais pas omettre de vous raconter ce que j'ai lu dans un fameux bouquin que possédaient tous les herboristes à l'ancienne, ça faisait partie de la bibliothèque de ma mère. C'est le bouquin d'un fameux herboriste très connu de Limoges, Monsieur Compin, dans son manuel pratique d'herboristerie, qui est indispensable, tout comme celui du docteur Leclerc et ou celui d'autres médecins phytothérapeutes modernes. Compin racontait, il tenait ça d'un de ses collègues d'Oran. On s'était aperçu qu'au Maghreb, les guérisseurs berbères recommandaient, alors là ça paraît aberrant, aux gens atteints de calculs rénaux, l'utilisation, mais on ne sait pas comment, de baies mûres d'arôme tacheté. Or, il se trouve que l'arôme tacheté, le pan des serpes, contient dans toutes ses parties, rhizome, feuilles, baies, tous les éléments nécessaires à provoquer la formation de calculs rénaux. Et donc d'aggraver l'état des gens qui souffrent de rhumatisme divers, d'arthritisme. Et or, il se trouve que bizarrement, les Maghrébins, les Berbères qui recouraient aux soins de ces guérisseurs étaient enchantés du résultat. Alors, en quoi tenait la médication des calculs rénaux, des états arthritiques par les baies d'arôme tacheté, qui sont un toxique violent, on se le demande, on n'a pas d'explication. À propos de l'arôme tacheté, toujours pareil, pour essayer de creuser un peu plus, et pour en revenir à ce que me disait notre fameuse plus que guérisseuse, cela que vient son nom de pan de serpe, pain de serpent, ou rasi de serpe, raisin de serpent, il passe pour être mangé par les serpents. Alors les serpents se régénéreraient en mangeant les rhizomes d'arôme, comme font les sangliers. Ils se débarrasseraient ainsi de leur vieille peau, de leur mue. Et leurs mues, les mues de serpent, deviendraient ainsi chargées des vertus régénératrices de l'arôme, sans présenter de toxicité. Par la suite, autre légende, les cerfs et les biches, par leur haleine, feraient sortir de leur refuge les serpents, ils mangeraient ces mêmes serpents sur le point de changer de peau, et en mangeant ces serpents ou en mangeant les mues de serpent, ils capteraient ainsi indirectement les vertus de l'arôme. L'arôme serait donc une plante d'immortelle jeunesse. C'est là l'explication du nom de pan des serpes qu'on lui donne. Ça me fait penser, là je saute un peu à une autre chose, à l'historiette que raconte le fameux docteur Leclerc, médecin militaire au Val-de-Grâce, dans une de ses publications. Il avait l'épouse d'un de ses collègues, médecin lui aussi, qui était atteinte de psoriasis. Ils entendent parler par hasard d'un guérisseur de Bourgogne qui guérissait le psoriasis. Ils y vont, ce guérisseur travaillait son jardin, reçoit ces gens, on lui expose le problème, il dit très bien, il y a cette dame, c'est pas compliqué. Je vous prends un califourchon, montez sur mon dos. Et les voilà partis à faire le tour du jardin, le guérisseur portant cette dame sur son dos. Trois fois. Au bout de trois fois, il dit, bon ben ça va, maintenant vous êtes guéri, vous pouvez repartir. Ces gens-là ont dit, combien on vous doit? Rien du tout, je fais ça, bon, très bien. Dans les voitures en revenant, tout le monde rigole, un charlatan, il s'est foutu de nous, etc., etc. Arrivée à Paris, cette dame passe dans son cabinet de toilette pour se changer, se déshabille, et oh surprise, le psoriasis avait disparu. Et 20 ans après, le docteur Leclerc disait, il n'était jamais plus revenu. Nous allons donc maintenant passer par un petit intermède musical pour passer à la fin de l'exposé. Alors, je vais entrer toujours dans les choses concrètes. Aujourd'hui, c'est très peu théorique. Ça m'aura permis quand même de comprendre d'où venait le nom de pain de serpent donné à l'arôme tacheté et à la réputation extraordinaire qui était faite à celui-ci. Alors, je vais maintenant, en dernière partie, vous parler des recettes familiales que je tiens par tradition, de mon père, de ma mère, des voisins, des gens de mon cuc, au sujet de l'utilisation de tout ce que la nature nous donne comme ressources. Alors, là, ça va être un peu dans tout le désordre. Alors, parmi les recettes saintongeaises connues, il y en a une que j'ai longtemps utilisée, mais qui est un peu délicate. Contre les douleurs d'oreille, en Charente, chez mon père, on conseillait aux gens de mettre dans l'oreille de l'huile de macération de fleurs de sureau noire. C'est vrai que c'est efficace. Moi, je l'ai testé sur moi-même, ça a été très efficace. Mais voilà, ça a un inconvénient. Cette huile de fleurs de sureau noire, au bout de quelques temps, moisit. Donc à ce moment-là, il faut cesser l'utilisation. Il faudrait donc en faire en petite quantité et renouveler assez souvent la préparation. Elle passe donc en Charente pour un remède remarquable. En la préparant, du reste, je me suis aperçu que le sureau... Mais là, c'était dans un autre cas. Voilà, j'avais une infestation de pommiers du jardin par des pucerons. Et ou dans les bouquins, où mon père me dit « Mais mon Dieu, contre les pucerons, il n'y a rien de tel que le suc de feuilles de sureau noir, le sureau arborescent. On peut faire aussi avec le sureau yèble. » Je me mets à préparer mon suc de feuilles de sureau, je le malaxe, je l'écrase, je le presse entre les doigts, et j'avais une crevasse, on était pourtant au mois de juin, j'avais une crevasse au pouce ou au majeur, de main droite. Ça arrive beaucoup aux jardiniers, les problèmes de crevasse aux mains, quand on travaille main nue. Je malaxe donc mon jus de sureau noir, je traite mes pommiers avec ça, le lendemain il n'y avait plus du tout de pucerons, et moi, miraculeusement, mes crevasses étaient guéries. Et mon père me dit, mais en Charente, tout le monde sait ça, le suc de sureau noir, c'est remarquable contre les crevasses et les blessures. Et c'est donc une autre des propriétés. Alors, pour en revenir un peu à nos histoires de peau et d'oreilles, une autre recette qui va vous faire hurler, elle fait toujours hurler mes voisins quand je la leur raconte. En Charente, quand on a mal à l'oreille, des douleurs persistantes d'oreille, des otalgies. Moi, j'ai eu ça pendant plusieurs semaines suite à l'utilisation de cette huile de fleur de sureau moisie. J'avais un problème. Bon, je suis très nageur, je nage beaucoup. Il se trouve que j'ai l'oreille droite qui garde l'eau et rien à faire, même en dormant sur le côté droit, l'eau reste dans l'oreille. Ça m'avait provoqué une inflammation, bon, peu importe. Mon médecin m'a débarrassé de ça, mais pendant plusieurs semaines, j'en ai souffert. Ça a disparu, bon, il n'y a pas eu de problème. Avec des bouchons dans l'oreille, ça ne risque pas de revenir. Mais pour ce problème-là, en Charente, on a un système très simple. Alors quand je dis ça à mes voisins, c'est des hurlements. Vous savez que dans les jardins au mois de décembre, dans les choux, vous trouvez plein de petites limaces noires, et même des plus grosses quelquefois. Alors, voilà ce que font les Charentais. Ils enferment ces limaces dans l'oreille, bouchent l'oreille avec un bouchon de cire d'abeille, et quand la limace est morte, la douleur d'oreille a disparu. Ils font également, mais j'ai trouvé la recette ailleurs. En cas d'écharde qui n'arrive pas à bien sortir, on applique sur l'endroit où se trouve l'écharde du fiel de porc. Et j'ai retrouvé la recette ailleurs, c'est une recette paysanne fort connue. Alors, autre recette encore plus extraordinaire, alors là, on entre dans le domaine de la magie, c'est celui d'un remède contre les fièvres récurrentes qui autrefois étaient fréquentes, du type fièvre paludéenne, si vous voulez, fièvre carte, fièvre tierce, style malaria et compagnie. Il y avait une dame qui tenait restaurant, taverne, auberge. À l'époque, les transports se faisaient par roulier, des charrettes tirées par des chevaux qui desservaient les clients, qui transportaient les marchandises. Et un roulier s'arrête à l'auberge de Juillac-le-Coq et il dit à cette personne « Oh, je suis en pleine fièvre, ça me revient souvent, etc. etc. » Cette dame lui dit « Mais malheureux, je vais vous soigner. » Elle lui fait mettre au cou un collier tenant une coque de noix. Et elle lui dit « Gardez ça, ne l'enlevez jamais. » Le lendemain, il se réveille, plus de fièvre. Et les fièvres ne sont plus jamais revenues. Quand cet homme est mort, ses héritiers ont dit quand même, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a dans la coque de noix. Ils enlèvent le collier, ils ouvrent la coque de noix, et ils y trouvent quoi ? Une araignée, qui avait été enfermée dans la coque de noix et qui était morte. Et alors, je retrouve cette recette dans d'autres ouvrages sur la médecine populaire, traditionnelle, paysanne. C'est pas une exception charentaise. Mais enfin, avec la limace dans l'oreille, le fiel de porc sur l'écharde et l'araignée dans la coque de noix, vous voilà déjà bien averti de ce que l'on aime bien pratiquer dans ces pays d'entre Gironde et Loire, qui sont ceux en France où fleurissent le plus les guérisseurs, et plus que les guérisseurs quelquefois. Vous avez quelquefois dans le Massif central des médecins, tout ce qu'il y a de plus docteur en médecine, qui sont aussi guérisseurs de famille. Ça arrive. J'avais vu une émission là-dessus sur la chaîne de télévision Arte. Alors, pour continuer un peu notre sujet, j'ai quelque chose dont j'avais parlé dans un article de la revue Quercy Recherche, les numéros 109 et 110. C'est une recette que je tiens d'un vieux Montcuquois qui la tenait lui-même de son père. Alors, le vieux Gould de Compaire, à Sox ou Saint-Matre, avait une recette contre les rhumatismes qui, mon Dieu, me paraît tout à fait agréable et même tout à fait bonne à conseiller. Vous savez que souvent, les rhumatismes, c'est dû à l'excès de consommation de viande, de vin rouge, de gibier. On disait que la goutte, c'était la maladie des châtelains. Alors, le vieux Gould de Compaire, ou de Compaire, je ne sais pas trop comment il faudrait prononcer, je ne me rappelle plus, avait une recette simple. Il prenait d'abord du vin de Cahors. Le vin de Cahors, c'est un vin noir, c'est le feu liquide, c'est l'œuvre noire des alchimistes. Je pense qu'il devait y ajouter, malgré tout, un peu d'eau de vie pour assurer la conservation. Il faisait macérer pendant 3 semaines dans ce vin de Cahors, donc c'est pour ça qu'il y mettait nécessairement de l'eau de vie. Il faisait macérer des écorces de jeunes rameaux de frêne. Il y ajoutait des écorces de jeunes rameaux de saule. 3 semaines de macération, boire un verre par jour. Et son fils disait à mon propre père qu'avec ça, il avait vécu jusqu'à la fin de ses jours sans souffrir de rhumatisme. Fernand Vignol, des grottes de Roland, m'en disait autant. Lui, c'est encore plus simple. Il ramassait des branches feuillues de frêne, les faisait sécher, faisait bouillir ça dans la marmite et en buvait à tingude, à pleine marmite. On pourrait comparer la tisane du vieux Goul avec celle, la fameuse tisane du docteur Leclerc, composée de reine des prés, de frêne et de cassis. C'est un peu les mêmes plantes, par les propriétés. Et il y a une chose qui est encore plus remarquable, c'est que j'avais comme client, à l'époque, dans le cadre boutique de mes parents, beaucoup de gens venaient me chercher uniquement certaines plantes. Il y avait 5 ou 6 plantes qui étaient très souvent demandées, et ils m'étaient envoyés par un fameux guérisseur de, je dirais en termes très vagues, la Haute-Vallée de la Barguelonne. Et ce monsieur utilisait uniquement certaines plantes, et pour ce qui est du frêne, il préférait les samars, les graines de frêne aux feuilles, ce en quoi il rejoignait les conseils du docteur Leclerc. Alors ce qui m'avait beaucoup frappé chez ce monsieur, c'était toujours les mêmes, je me disais, mais enfin pourquoi tout le temps les mêmes plantes, quels que soient les problèmes dont les gens souffrent. Et alors je lui en avais parlé, et d'après ses déclarations, j'en avais conclu que ce monsieur, au fond, n'était autre chose, et il ne le savait pas lui-même, qu'un chaman. C'est-à-dire que lorsque les gens venaient le trouver, il ressentait dans son propre corps les troubles de santé de ces gens-là. Quand il utilisait les plantes en question, il me le disait. Parce que voilà, il me dit, pour lui, le mal, c'était dû à la stagnation du sang, donc de l'énergie, dans tel ou tel organe. Et le fait de réactiver la circulation du sang, donc de l'énergie, faisait disparaître les troubles dont souffraient les gens en question. C'est, à proprement parler, la théorie la plus classique de, de tout le chamanisme eurasiatique et paléo-sibérien. Au fond, la maladie dans ce monde des guérisseurs locaux, c'est un problème de circulation de l'énergie. Donc, qui dit énergie, dit flux. Qui dit flux, dit eau, dit feu. Et c'est ce que l'on retrouve à travers l'aura thérapeutique et mythologique de certaines plantes en relation avec le mal. Le frêne, par exemple, prend le mal, alors que la verveine officinale le fait sortir du corps. Il en était de même de la centaurée pour les druides. Mais il y a mieux, vous avez le noisetier. Dans le monde des guérisseurs, le noisetier est l'arbuste qui capte les vertus des sources. Donc, faire des tisanes ou utiliser l'écorce, les feuilles, les chatons de noisetier, c'est capter, utiliser les vertus des sources au bord desquelles pousse le noisetier. Il y a dans nos régions une médication encore plus curieuse qui consiste à faire passer par le feu certaines plantes, notamment les toxiques, qu'ensuite on lixive, c'est l'expression employée, ou on lessive avec de l'eau bouillante, et cette eau qui se charge des vertus contenues dans les cendres, on la donne à boire aux moutons en cas d'épidémie. S'il s'agit de soigner un être humain en plein état pléthorique de type apoplectique, des risques de congestion cérébrale avec hypertension, artériosclérose et autres problèmes de la sorte, on lissive la plante de certaines plantes toxiques avec du vin blanc. Et on fait boire le vin qui coule à l'apoplectique et l'ingestion de vin blanc se traduit par un effet laxatif et diurétique. Alors la plante qui est utilisée de la sorte, notamment, je dis pense maintenant, je ne vous avais pas donné le nom, c'est le Rhamnus alaternus, c'est la laterne qui est fréquente dans nos régions, qui est un arbuste à feuilles persistantes, un méditerranéen. Et la recette est connue depuis au moins le Moyen-Âge. C'est donc une recette qui consiste, si vous voulez, à récupérer les vertus des plantes en leur faisant subir des préparations de type alchimique. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé également dans mes activités, en quelque sorte, et mes recherches, c'est le fait que les écorces jeunes des arbres sacrés sont toutes fébrifuges, stimulantes, fortifiantes. C'est le cas, par exemple, des écorces de frêne, d'olivier, de saule, de noisetier. Alors que d'autres, qui sont trop riches, trop fortes, trop puissantes, qui sont sous le patronage d'une divinité de type jupitérien, elles, ne sont d'usage délicat. C'est le cas de l'écorce de chêne ou de noyer, trop riche en tanins, tout simplement, et qu'on évitera d'utiliser. Alors que les écorces de frêne, d'olivier, de saule, de noisetier sont toutes médicinales et recommandées. Alors, pour continuer dans cet exposé un peu désordonné sur ce qu'il en est de l'usage des plantes dans la région, il y a quelque chose qui me revient maintenant à l'esprit, c'est assez curieux. J'ai trouvé ça dans un bouquin sur le canton de Lozère, C'est une confusion de vocabulaire. On savait à Lozère que les bouquets floraux de ronce étaient bons pour les angines, que l'on appelait mal de gorzo, dol de garganto, mal de col. Or, le mal de col, c'est aussi le torticolis. On aboutissait donc à conseiller, assez curieusement, l'ingestion ou l'application de fleurs de ronce sur le cou contre les angines. Là, c'est connu, là, la fleur de ronce est utilisée contre les angines dans toute nos régions. Mais on confondait ce mal de gorge avec le mal de cou, avec le torticolis. Donc il y avait là, si vous voulez, une erreur par confusion de vocabulaire. Le torticolis étant, dans les théories de nos guérisseurs locaux, relevant du domaine de compétence de la verveine sauvage. Il y avait pire. À Saint-Amand-de-Pélagal, contre les caries dentaires, on conseillait d'instiller dans la dent cariée du latex de forbes ou d'ellébores, le même nom étant utilisé pour les deux plantes, marciulo, qui désigne aussi bien le forbe que l'ellébore. Alors, l'instillation de ce latex, qui est un toxique violent, c'est une plante qui agit sur la formulation sanguine, sur le cerveau, sur les reins, sur la moelle osseuse, c'est mortel. Alors, le latex de forbe ou d'ellébore, instillé dans la dent cariée, passait pour tuer la dent et la faire tomber. Vous connaissez l'usage des jeunes pousses de tamier commun, les responsus, au printemps, mangés comme des asperges, alors que l'usage médicinal, ça consiste à utiliser la pulpe du rhizome, qui, appliquée directement sur les endroits douloureux, fait passer la douleur par un effet révulsif. La chose est connue. Mais il y a encore plus curieux dans nos régions. Je tiens ça d'une personne que je connais bien, d'Écosse entre Saint-Mâtre et Villesec. Elle ne veut pas que je donne son nom. Elle est éleveuse de bétail. Et, curieusement, elle tient d'un vétérinaire, une recette contre la teigne. La teigne est un champignon microscopique qui affecte les vaches. Il suffit, et elle m'a certifié la chose, et d'autres personnes m'en ont dit autant, il suffit, pour éviter la teigne, de suspendre dans l'étable des bouquets de houx. Le houx à grandes feuilles, Ilex aquifolium. Or, on se demande, qu'est-ce que c'est qui agit? Alors, la baie de houx est toxique, les feuilles sont médicinales. Ce qui est reconnu comme efficace dans le houx, c'est un alcaloïde qu'on appelle l'ilicine de Ilex, mais qui est utilisé en pharmacopée moderne contre les rhumatismes et les fièvres paludéennes. On ne voit pas trop le lien entre les deux. On se trouve là devant tout un trésor de connaissances accumulées au fil des âges, dont l'origine pose problème. Alors évidemment, on a longtemps cru qu'il fallait attribuer ces connaissances à la médecine druidique, étudiée par Jean-Christian Guyonvar, par Aline Roussel, par Anne-Françoise Leroux, pour citer trois auteurs à lire. Mais on s'est aperçu que Pline, le naturaliste, semble bien avoir récupéré beaucoup des recettes qu'il indique par ses contacts avec les druides médecins. On a pensé à l'expérience des médecins grecs et romains qui étaient au service de l'armée romaine ou des empereurs. On a cru donc à une longue tradition et transmission de génération en génération, mais ce qui me frappe beaucoup, moi, ce qui caractérise le Quercy, c'est le fait que les gens ont des plantes médicinales une connaissance très fragmentée. C'est-à-dire qu'on ne connaît que quelques plantes, au nombre d'une trentaine environ, 50 au maximum. De chaque plante, on ne connaît que quelques utilisations. Et il est rare de rencontrer une personne qui connaisse l'ensemble, l'éventail total des plantes utilisables dans la région, du moins la compilation de tout le savoir local. On ne connaît donc que quelques plantes, on ne connaît que quelques vertus de chaque plante. Il est rare de trouver quelqu'un qui les connaisse toutes. Et ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est qu'il se pourrait que derrière un savoir livresque ancien, mais dont on se demande comment les gens pouvaient en avoir connaissance, il se pourrait qu'en fait, tout cela repose sur des lectures d'almanachs et de petits manuels populaires diffusés lors des foires et marchés dans l'Europe et la France du XIXe siècle. Je pense notamment au fameux Médecin des pauvres, qui me paraît être à l'origine de beaucoup de connaissances en la matière. Du reste, une origine plus ancienne poserait le problème d'une transmission de génération en génération dans un monde où l'on vivait beaucoup moins vieux que maintenant et où donc les grands-parents n'avaient pas forcément le temps d'initier leurs petits-enfants. Beaucoup de gens mouraient vers la cinquantaine ou la soixantaine. Ça n'empêche pas qu'il y avait des gens qui atteignaient les 80 ou 100 ans. Mais beaucoup mouraient jeunes, donc il y avait une difficulté à la transmission. Quant à une transmission plus ancienne, je n'y crois pas beaucoup. Bon, évidemment, il y a, pour les historiens, quelque chose d'intéressant, ça a été recueilli et publié. C'est tout ce que l'on sait de la médecine égyptienne et des papyrus médicaux égyptiens, qui sont aussi des papyrus magicaux religieux. On connaît des tablettes en écriture cunéiforme de Mésopotamie, qui traitent de médecine par les plantes et par d'autres moyens. Les enseignements des druides, recueillis par les Grecs, les Romains, par des auteurs surtout de l'Antiquité tardive, je pense à Marcellus de Bordeaux, sur les œuvres duquel a beaucoup travaillé Aline Roussel. Des œuvres conservées des médecins de l'Antiquité, elles se sont retrouvées ensuite dans celles des clercs médiévaux, des hommes d'église, des collèges universitaires médiévaux, des médecins du Moyen-Âge tardif, et nous avons, pour ce qui est de nos régions, un fameux recueil publié par Clovis Brunel en 1956 chez Privas, son recueil de recettes médicales, alchimiques et astrologiques, en Languedoc du XVe siècle. Et là, on peut, en comparant, retrouver quelquefois le fil conducteur qui nous permet de retrouver, comprendre comment on peut se transmettre des recettes. Vous heurterez cependant un obstacle majeur, c'est l'impression de Capharnaüm qu'inspire la lecture de ses œuvres. C'est comme si vous ouvriez un placard mal rangé et dont le contenu vous tomberait tout à la fois sur la tête. C'est un peu ça. Pline le naturaliste est difficile à lire à cause de ça. Et c'est pareil de tous les auteurs anciens. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte un peu désordonné parce que le sujet demande un fil conducteur qui n'est pas toujours facile à suivre. Et j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé l'esprit. Voilà, donc à la prochaine fois, nous reverrons dans 15 jours. Je suis loin de vous avoir tout dit, vous vous en doutez. Le sujet étant immense et difficile. Voilà, alors à une autre fois et merci bien. Au revoir.
La ronde du Quercy, ça commence par...
Pudeli y uladeri Margarido se baño.
De chul pudeli y uladeri Margarido se baño.
El se baño para derin elabora bigado.
El se baño para derin elabora bigado.
Y el se baño para derin elabora bigado.
Y el se baño para derin elabora bigado.
Pasan tres caballeros deri tres caballeros de armado.
Pasan tres caballeros deri tres cavaliers d'armado.
Qua son tre cavalier laderi, tres cavalier d'armado.
Qua son tres cavalier laderi, tres cavalier d'armado.
Son fellude de baladeri che non ve lo lavairo.
Son fellude de baladeri che non ve lo lavairo.
Cavaliers d'armado,
son tres cavalieri
tres cavallers armados.
Passen tres cavallers laderi, tres cavallers armados.
Dos, un, tre cavallers laderi, tres cavallers armados.
Su fel-lo de davant laderi, colombelo,
la bairo. Su fel-lo de davant laderi, colombelo, la bairo.